Enrayer le phénomène.
Des agresseurs de plus en plus jeunes, de plus en plus déterminés, de plus en plus armés, de mieux en mieux organisés, aux mobiles irrationnels, des adultes désarmés, il y a de quoi s'inquiéter. Il est urgent d'agir car le phénomène, circonscrit jusqu'à présent à la région parisienne, semble se répandre en province. La bonne nouvelle est que des solutions existent et elles sont de bon sens. Elles s'organisent autour de trois grands axes: créer du lien, valoriser ces jeunes, agir le plus tôt possible.
Créer du lien à l'extérieur et casser du lien de l'intérieur.
L'un des drames de ces quartiers est le manque de mouvement. Du fait de leur situation sociale, les habitants sont en quelque sorte cloués sur place. Les jeunes sont complètement perdus dès qu'ils dépassent le coin de leur immeuble. D'où l'impératif que les jeunes de différents quartiers, de quartiers ennemis, se rencontrent et mènent des activités ensemble. Mais créer des liens ne suffit pas. Il est nécessaire dans le même temps de casser les liens toxiques qui soudent les membres des bandes. C'est dans la cour de l'école que l'on pourrait identifier des connivences suspectes et les signaler. Malheureusement, ceux qui gèrent ces espaces et ces moments ne souhaitent pas s'impliquer dans les relations entre les élèves tant que cela ne compromet pas la sérénité de la cour. Et le service militaire? Il avait l'avantage de brasser les populations à un âge où il est important de s'ouvrir à d'autres vécus, à d'autres façons de voir le monde. Il serait intéressant de le remplacer par des actions qui ont le même objectif: tirer les jeunes de leur quartier, les sortir de leur zone de confort, les confronter à d'autres jeunes, d'autres villes, d'autres milieux, d'autres visions. Bref, les ouvrir aux autres. Déconstruire des liens toxiques, construire ou reconstruire des liens positifs, cela semble un élément clé de la solution pour nos témoins.
Des adolescents à revaloriser.
Mais cette ouverture ne suffit pas. Il est essentiel que les auteurs de RICS trouvent d'autres moyens de se valoriser que d'agresser les jeunes du quartier d'en face. Le sport est une ressource importante dans cette démarche de reconquête de l'estime de soi. Mais il faut être lucide, tous les animateurs de clubs sportifs ne se sentent pas investis d'une mission sociale. Beaucoup de jeunes se sentent rejetés parce qu'on ne les écoute pas. On les oriente parfois dans des filières professionnelles qui ne leur conviennent pas. Mais pour aider les jeunes à trouver des stages ou des emplois stables, il est sans doute nécessaire de leur apprendre les codes du monde du travail, c'est-à-dire en fait les codes du monde extérieur à leur cité. Certes, les métiers traditionnels attirent de moins en moins les jeunes. En revanche, les métiers modernes liés à la communication et au divertissement offrent des perspectives intéressantes. En tout cas, la valorisation par l'action doit être aussi un moyen de donner à ces jeunes le sens des responsabilités qui semblent leur faire défaut. Il est évident que les jeunes qui ont une passion ne sont pas dans ces rixes. Il est donc essentiel que la fonction narcissique, tellement active au moment de l'adolescence, trouve à s'employer dans des activités positives. Comme on le verra plus bas, ces moyens ne résoudront pas les cas les plus graves, mais ils peuvent sauver la plupart des suiveurs et limiter la casse.
S'y prendre très tôt.
Si on attend l'adolescence pour traiter ces problèmes, on n'arrivera à rien. Car tout laisse à penser que chez les jeunes les plus dangereux, l'adolescence ne fait que révéler, qu'exacerber, un problème qui est apparu bien plus tôt dans l'enfance. Un pédopsychiatre, Marcel Ruffaut, a bien montré que ce sont les premières années de la vie, avant 3 ans, qui sont déterminantes. C'est au tout début de la vie que l'avenir de l'enfant se joue. C'est à ce moment-là que se fait l'éducation de l'enfant. D'où l'importance d'apprendre la parentalité aux parents. Hélas, on croit souvent qu'être parent va de soi. Sans doute faut-il revoir notre approche de la frustration dans un monde où la moindre de nos envies, le moindre de nos désirs doivent être satisfaits sur le champ. Cet apprentissage de la frustration commence dans l'enfance, quand l'enfant pleure dans son lit. Intervient-on tout de suite? Le laisse-t-on pleurer? Grave question que connaissent bien les parents, mais de leur réponse va dépendre la suite. Les personnes au contact des enfants, les assistantes maternelles, les assistantes sociales, pourraient signaler ceux qui semblent montrer des problèmes. Mais si tous les auteurs de faits graves dans les RICS ont eu des problèmes familiaux très tôt dans leur enfance, l'inverse n'est pas vrai. Tous les enfants qui vivent des situations difficiles dans leur famille ne deviennent pas délinquants. Pour certains enseignants ou intervenants, signaler un problème chez un enfant reviendrait donc à dénoncer un délinquant avant même qu'il ait commis le moindre délit, si tant est qu'un jour il en commette un. Pourtant, on sent bien qu'on touche là au nœud du problème et de sa solution. L'adolescence ne fait que révéler les traumatismes des premières années. Comme ces problèmes sont d'origine familiale, les parents ne sont pas forcément les mieux placés pour les déceler ni les corriger. C'est pourquoi une collaboration plus étroite entre les enseignants, les psychologues, la police et les acteurs locaux permettrait de soigner le mal à la racine en instaurant un véritable suivi des enfants. Malheureusement, la communication entre les différents acteurs est difficile.